franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, les chercheurs grenoblois qui ne décolèrent pas après avoir entendu ces propos dans l'émission C'est dans l'air sur France 5.
Moi qui suis grenobloise, il y a des centres de recherche énormes à Grenoble avec des gens qui étaient nommés à vie. Comment voulez-vous qu'on cherche et surtout qu'on trouve pendant toute une vie? Quand ils arrivent à 25 ans, 28 ans, ils sont pleins d'ardeur. Puis après, ils vont sur les pistes de ski et dans les clubs de tennis. À Grenoble, c'était comme ça. C'était tous les chercheurs qui étaient là. Bien évidemment, ils sont nommés à vie.
Voilà les propos de la journaliste Hélène Pilichowski le 25 septembre dernier et sa vision donc du monde de la recherche avec la réponse des universités et des chercheurs grenoblois, toutes disciplines confondues, qui est arrivée hier sous la forme d'une lettre ouverte. Bonjour Pierre Hénault.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut de recherche Albert Bonnio et vous êtes justement à la tête d'un de ces grands instituts dont parlait Hélène Pilichowski.
Voilà.
Est-ce que vous passez plus de temps sur les pistes de ski que dans votre laboratoire?
Oui, je disais à votre collaborateur que c'était très sympathique de nous appeler à ce sujet-là et que nous serions évidemment tout à fait contraints d'interrompre nos activités sportives du vendredi pour pouvoir vous répondre.
Donc merci beaucoup à vous de nous accorder un peu d'antenne.
Nos lois ont certainement souris du caractère absolument outrancier de ces propos.
Ça a été la première réaction d'abord. C'est ça. D'abord vous avez ri et puis ensuite vous avez été quand même légèrement vexé, je crois, par ces propos et vous avez souhaité y répondre.
Voilà. D'abord, notre communauté a répondu, comme vous l'avez dit, par l'intermédiaire des directeurs d'instituts, des présidents d'universités qui ont signé une lettre ouverte. Mmh. Le président de la Grenoble-Alpes Métropole a aussi répondu, donc je pense que il y a eu un certain nombre de réactions officielles, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'entre nous, on en a beaucoup parlé. Les chercheurs l'ont entendu et ont été touchés par ces propos. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, il y a un côté comique. Les chercheurs, c'est une communauté qui ne manque pas d'humour. Et je pense que dans les réactions qui remontent pour Madame Pilichowski, il y a un certain nombre de réactions assez humoristiques des chercheurs. Mm-hmm. Mais aussi, ça donne une vision de notre carrière et de nos métiers qui est non seulement fausse, mais en plus, rejette dans l'ombre les difficultés que les chercheurs ont dans leur métier et dans leur carrière aujourd'hui. Laisser croire que les chercheurs sont nommés à l'âge de 25 ou de 30 ans, c'est une aberration.
Ce serait formidable.
Comme je pense que tous les gens qui sont en contact avec le milieu de la recherche le savent bien, mais je me disais, Madame Pilichowski, je ne veux pas faire des remarques inélégantes sur son âge, ce serait déplacé, mais elle nous parle d'un temps que les moins de 60 ans, de 70 ans ne peuvent pas connaître. Moi-même, comme directeur d'un institut, je ne suis plus un tout jeune chercheur, mais je n'ai jamais connu une période où les gens étaient nommés à 25 ans. La plupart des chercheurs font des longs parcours avant d'accéder à des postes qui sont stabilisés vers l'âge de 35, pour dans le meilleur des cas, parfois 40 ans ou plus, après beaucoup de sacrifices, des postes de cas à l'étranger, etc. Et ce n'est encore qu'une très petite proportion de ceux qui se lancent dans la carrière de recherche qui arrivent à ces situations-là. Donc c'est tout à fait faux de laisser penser que tout le monde est en place à 25 ans et puis passe son temps sur les pistes de ski.
Et pour vous, d'où vient-elle cette image du chercheur pantouflard qui cherche longtemps sans trouver?
Alors, j'ai beaucoup de problèmes avec cette image-là parce que ça ne correspond pas du tout à la dynamique dans laquelle nous sommes. On est dans un monde compétitif et nos instituts de recherche sont vraiment organisés de façon à répondre à cette compétition. Donc on va chercher des contrats à l'international avec les entreprises, on fait beaucoup d'innovations, on génère des start-up. Pas mal des questions justement de développement de carrière de nos jeunes chercheurs sont assumées par le fait qu'il y a beaucoup de mobilité entre les entreprises et le laboratoire. Notamment un certain nombre de nos jeunes chercheurs continuent leur carrière dans les start-up qui sont produites par l'innovation que génère un institut comme celui-ci. Et Grenoble est un endroit renommé pour ça, puisqu'il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'investissements sur l'innovation dans toutes sortes de domaines. Je pense que les chercheurs ont aussi un peu contribué parfois à cette image-là. Et en partie, nous sommes une communauté jeune, avec des gens actifs qui font du sport. Il y a parfois un certain snobisme des chercheurs aussi de montrer qu'ils font tout ça avec beaucoup de facilité, qu'ils sont inventifs, créatifs. Ils ont parfois tendance à cacher ou à masquer l'énorme masse de travail qui doit être produite pour générer cette créativité, cette innovation. Mais la réalité, c'est que vous pouvez venir dans un institut comme ceci jour et nuit, le dimanche, le samedi, il y a des gens qui travaillent. Tout le temps.
Donc tout le monde n'est pas sur les pistes de ski ni sur les terrains de tennis. Hein.
On va dire une chose, c'est que dans un site comme Grenoble, on a un cadre de vie qui est quand même exceptionnel et que ce cadre de vie, à mon avis, contribue aussi à la qualité de l'innovation, parce que pouvoir aller le samedi ou le dimanche faire une randonnée avec les collègues, etc., c'est parfois extrêmement inspirant. Ça nous permet aussi d'avoir des communautés de gens qui se connaissent bien, multidisciplinaires, qui se fréquentent beaucoup même en dehors du milieu de travail proprement dit. Et tout ça participe à la dynamique d'une région très très innovante. Donc on va pas se plaindre de vivre dans un bel endroit comme ça. Ça fait partie de la richesse du métier que nous pouvons faire.
Axel, une autre réaction que vous avez eue ce matin, c'est celle de Patrick Lévy, président de l'université Joseph Fourier, une des trois plus grosses universités de Grenoble, justement.
Et pour lui, c'est l'image directe des chercheurs français qui étaient attaqués.
Comme président d'université, c'est vrai que je serais choqué même des propos d'Anne Pichowski. D'ailleurs, la réponse qu'elle nous a faite n'est pas vraiment très convaincante. Elle dit qu'il n'a jamais été question pour elle de mettre en cause les résultats des chercheurs et que, en fait, il s'agit juste des statuts des fonctionnaires. Moi, ce qui m'a choqué profondément dans ce qu'elle a dit, c'est le fait qu'elle se prévale d'être grenobloise pour dire que, elle sait très bien ce qui se passe dans les centres de recherche grenoblois. Et qu'au fond, on trouve toute une série de chercheurs au ski ou au tennis. Et ça, c'est non seulement une contre-vérité, mais bon, c'est quelque chose qui porte atteinte à l'image même de la recherche. Il faut quand même se rappeler que les gens sont chercheurs avec des salaires qui sont quand même extrêmement loin de ce qui se passe dans les autres pays et qu'ils y mettent quand même beaucoup, beaucoup d'engagement. Il y a sur les chargés de recherche, par exemple, de l'INSERM ou du CNRS, une sélection qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de candidats pour quelques dizaines de postes. Donc, je dirais que effectivement, pour la plupart des gens qui sont en CDD, en postdoc, par exemple, à l'âge de 27-28 ans, ils ont une probabilité d'être embauchés sur un poste de fonctionnaire qui est extrêmement faible. Ce que je pense en tout cas, c'est que quand on est un journaliste, c'est quand même pas mal d'asseoir finalement des affirmations sur la recherche en général avec des éléments concrets, quoi. Et là, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi.
Voilà, Patrick Lévy, le président de l'université Joseph Fourier. Pierre Hainaut, justement, les propos de Madame Pilichowski, tant débattus, ont été tenus lors d'un débat sur la réforme des fonctionnaires en France. Si réforme il doit y avoir, quels sont les points qui sont pour vous à revoir?
Je pense que c'est très important de pouvoir, dans une carrière de chercheur, préserver le développement de la créativité, donc une certaine forme d'indépendance, et aussi la capacité des gens d'avoir aussi une certaine forme de tranquillité dans leur possibilité de se projeter vers l'avenir, parce que la recherche c'est long, ça se fait pas un an ou à deux ans, il faut pouvoir se projeter sur 5 à 10 ans. Donc dans la réforme des carrières de chercheurs, il faut tenir cet aspect-là en compte, c'est ça qui fait le moteur de la créativité.
Donc cette lettre ouverte, Axel, qui a été publiée hier.
Et qui est à retrouver et à lire sur le site de La Tête au Carré.
Voilà, elle est en lien. Merci beaucoup Pierre Hainaut pour votre réponse. Merci beaucoup d'être passé à la Une de la Science aujourd'hui. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, eh bien c'est une nouvelle historique. Un échantillon de cerveau a été modélisé informatiquement pour la première fois. In silico, c'est son nom. C'est donc le premier cerveau artificiel, fruit du travail de 82 chercheurs du monde entier dans le cadre du Blue Brain Project. À ce jour, seule une infime portion a pu être recréée, mais cet échantillon contient lui seul 31 000 neurones, 8 millions de connexions qui forment 40 millions de synapses. Le modèle a été mis en ligne sur un portail web qui est en lien, si vous souhaitez le voir, sur La Tête au Carré. Sur Pluton, le ciel est bleu, la sonde New Horizons n'en finit pas de nous épater. Elle nous envoie de nouvelles séries de clichés en couleur, cette fois-ci, sur lesquels on peut découvrir le magnifique halo lumineux de l'atmosphère de Pluton. Des clichés qui confirment que le ciel de Pluton, comme celui de la Terre, est bleu, mais alors que sur la Terre, le ciel bleu est dû à la diffusion du soleil dans des particules d'azote. Sur Pluton, ce sont des particules de suie qui créent ce phénomène. Une image avec ce halo bleu à découvrir sur la page Facebook de La Tête au Carré et sur notre compte Twitter. Après 7 semaines de fermeture, la Cité des Sciences rouvre enfin ses portes. L'établissement qui avait été ravagé par un incendie en août dernier va pouvoir de nouveau accueillir le public à partir d'aujourd'hui pour célébrer cette réouverture, mais aussi à l'occasion de la fête de la science. L'entrée de la Cité sera totalement gratuite jusqu'à dimanche. Au programme, de nombreuses animations et l'ouverture de Chiens et Chats, l'Expo. Et puis pour finir, notre vidéo du jour avec des fourmis, mais pas n'importe lesquelles, des fourmis de feu qui tentent de survivre aux intempéries, en Caroline du Sud. Pour naviguer sur les flots, ces fourmis ont été capables de se réunir en une forme de boule, formant un véritable radeau. Un radeau en constante réorganisation afin de répondre aux contraintes de la navigation. Les fourmis matelots sont elles aussi à retrouver sur nos réseaux sociaux.